Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à ce débat de la Fondation Hirondelle qui se tient ici à la COP. Après 7 jours de négociations, aucun texte n'a été adopté au niveau des négociations, même si plusieurs initiatives, notamment le fonds pour les pertes et dommages, sont d'actualité aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué ce matin le point focal changement climatique du Mali à ces négociations qui se déroulent ici à la COP28. À noter que les négociations ne sont pas encore terminées, elles se poursuivront jusqu'au 12 décembre 2023 ici à Dubaï. Et on va discuter déjà des avancées et des différentes initiatives d'adaptation, notamment dans la région du Sahel et en Afrique centrale. Et pour cela, nous avons deux invités, Jean-Luc Tété, président de la Société des industries agricoles durables en Centrafrique, et Madame Zeynabou Segda, qui est présidente de Women Environmental Program au Burkina Faso. Je suis Mohamedou Touré. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Le Grand Dialogue.
À vous, Monsieur Jean-Luc Tété. Aujourd'hui, 7 jours de négociations. Quelles sont les différentes initiatives présentées autour de la COP qui peuvent intéresser la région de l'Afrique centrale?
Alors aujourd'hui, nous, pavillon République centrafricaine, on a mis des ressources importantes pour présenter l'initiative qu'on a développée depuis 3 ans et qu'on considère être un des exemples potentiels. Alors c'est pas l'exemple absolu, mais c'est un des exemples potentiels qui montre que ces débats très théoriques, il faut qu'on les ramène un peu sur terre et qu'on voit les vraies initiatives avec leurs vrais impacts et qu'on mette en place les moyens de pouvoir les développer. Donc en particulier, nous en Centrafrique, on a une responsabilité énorme. C'est celle de préserver, d'être un rempart à l'érosion de la forêt des bassins du Congo. Et cette forêt a un potentiel d'absorption de 10% de la totalité des émissions, donc l'impact est absolument colossal, et elle s'érode par le nord, donc par chez nous. Donc notre responsabilité est absolument énorme. Ça n'est pas juste le débat habituel de est-ce qu'il faut préserver les forêts ou alors ouvrir de nouveaux espaces agricoles quitte à sacrifier ces forêts. On n'est même plus dans ce débat-là, l'impact étant tellement important. On doit arriver à trouver des solutions pour concilier les deux. C'est pas l'un contre l'autre, on est condamné à trouver des solutions pour concilier les deux. Et on a trouvé des solutions, on a testé, élaboré, mis au point et maintenant développé des solutions qui permettent de répondre aux deux contraintes. Et vous serez surpris de savoir que ça donne des solutions industrielles bien plus compétitives que l'agriculture conventionnelle typiquement.
On reviendra tout de suite sur ces initiatives proprement dites, mais déjà, quand vous dites qu'il faut qu'on revienne à des solutions concrètes, est-ce que cela veut dire que les propositions pour le moment sont au-dessus des moyens ou ne sont pas réalisables?
Oui, je trouve qu'on parle beaucoup trop du cadre et pas assez de contenu. On a de grandes négociations sur les cadres généraux et je vous avoue que même moi, je m'y perds un peu. Il y a tellement de cadres, il y a tellement de différentes conversations parallèles, croisées. Je pense que ce qui est fait ici, c'est très bien, on en a besoin, mais on a peut-être besoin d'une simplification de ces discussions et de revenir un peu les pieds sur terre, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire organiser des cadres de discussion plus focalisés sur le contenu. Le thème de cette COP, c'est l'action. On s'est rendu compte que justement, on a parlé du cadre pendant des années et des années. Maintenant, il faut passer à l'action. Mais pour passer à l'action, il faut rentrer dans le contenu. Et je trouve qu'on parle beaucoup du cadre. Notre initiative Centrafrique, qui je pense mériterait d'être connue et qui est une réelle solution innovante et qui répond vraiment de façon holistique à tous les enjeux, on a du mal à porter cette voie-là. On ne sait pas par quel canal mettre à disposition ce qu'on a fait au service des autres.
On y revient tout à l'heure. Alors, Monsieur Jean-Luc Tété indique que le débat est trop technique. Lui-même, il s'y perd. Et aujourd'hui, qu'il faudrait rentrer beaucoup plus dans le contenu et sortir du cadre. Est-ce que vous arrivez à comprendre les débats, les discussions, ou est-ce que vous aussi, vous trouvez que c'est trop technique, Madame Segda?
Merci, Monsieur Touré. Tout à fait. Et les débats restent à toujours un niveau élitiste Et justement, c'est des discussions de forme. Hein, on discute des virgules, on discute des mots. Et ça prend du temps, ça prend énormément du temps. Alors qu'il faut agir. Il faut agir maintenant. Sinon, après, il faut payer plus cher. C'est pourquoi et c'est vraiment des discussions de trop. Il faut aller à l'action. Il faut aller à l'action, trouver des voies et moyens pour simplifier les discours, simplifier les débats, simplifier les textes. Les textes, il faut aller droit au but parce que le temps presse. On n'a pas le temps. Il faut vraiment s'attaquer au plus urgent. Il faut l'adaptation, financer réellement les pertes et dommages. Il y a quelques pledges, mais nous voulons concrètement que ça se réalise parce que c'est urgent, c'est urgent, c'est plus urgent. Oui.
Et chaque année, depuis 2015, il faut de l'action. C'est urgent. Ce sont une des grandes expressions qu'on retrouve dans les discours des hommes politiques et même des acteurs de la société civile. Mais malgré cela, il ressort déjà qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible, si on évolue comme on est en train de le faire, pour atteindre ou redescendre au niveau de 2 degrés Celsius, voire 1,5 degrés Celsius, comme prévu dans l'accord de Paris. Donc, qu'est-ce qui explique ces mots, ces engagements qui sont donnés avec moins d'actions constatées sur le terrain?
Oui, c'est de la mauvaise foi, c'est de la mauvaise foi et les gens ne sont pas réalistes parce qu'on a vu des phénomènes, des sinistres qui ont vu les gens réagir rapidement. On a vu passer le Covid, on a vu par exemple la guerre en Ukraine où les gens se sont mobilisés pour sortir l'argent, mobiliser les ressources pour faire ça. Et pour le climat qui est quand même global, mais seulement... Pas distribué de façon équitable. Je veux dire que, nous, parlant de l'Afrique, nous sommes très vulnérables à tout ce qui se passe comme phénomène climatique, mais nous n'avons pas les moyens d'être résilients face à ce qui se passe. Peut-être que eux, par exemple, les phénomènes qui se déroulent peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis et en Amérique de façon générale, dans les pays développés, ils sont assez peut-être résilients encore pour supporter. C'est pour ça peut-être qu'ils n'agissent pas. Mais nous, en tant que pays africains, nous avons besoin beaucoup plus d'action parce que nous sommes ceux qui souffrent le plus ce qui se passe actuellement. Donc il faut agir. Mais nous sommes par exemple moins de la société civile. Nous sommes à un moment donné et nous avons atteint notre découragement. Moi, ça fait 2008 que je suis les conférences sur le changement climatique. Mais
depuis
moi,
2008.
Depuis 2008.
Qu'est-ce qui a changé depuis?
Il n'y a rien à changer parce que les gens, ils s'engagent toujours, mais rien n'est fait. L'argent, on a vu passer plein d'initiatives, de trucs pour financer. Depuis les années 2009, autour de 2009-2010, on a vu passer les fast-tracks. C'est-à-dire qu'il fallait financer rapidement, mais ça n'a rien donné. Après, il y a eu l'engagement des 100 millions de dollars chaque année pour le faire. Rien.
Avec le fonds vert climat.
Avec le fonds, ça n'a jamais donné. On n'a jamais pu atteindre le niveau. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que les gens manquent de réalisme parce que les faits sont là, les conséquences sont visibles, mais ils n'agissent pas. Parce que peut-être, eux, ils peuvent bien se protéger. C'est pour ça qu'ils ne le font pas. Voilà. Donc, moi, ce que je dis aux membres de la société civile en général, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il n'y a pas de tribunal pour juger les pays qui ne font pas ces efforts-là. Donc, on ne peut pas les contraindre. C'est de la mauvaise foi, c'est clair. Il faut donc que nous, à un petit niveau, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Parce que sinon, ils ne feront rien. Ce sont des intérêts égoïstes. Et là, ils sont en train de chercher des fausses solutions. Par exemple, déjà, depuis plusieurs années, on est en train de vivre les solutions, les offsets. C'est-à-dire, on nous demande, nous, d'arrêter pratiquement...
Nous, les pays africains.
Nous, les pays africains, d'arrêter de nous développer pour qu'eux, ils puissent continuer le leur. Nous demander par exemple de vivre dans le verre, alors que nous avons quand même besoin d'un minimum, d'utiliser quand même un minimum de fossiles pour pouvoir nous développer. Parce qu'eux, ils ne financent pas ce qu'il faut pour l'énergie propre. Donc si on arrête d'utiliser aujourd'hui le fossile, on ne pourra aller nulle part parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter des équipements qui nous permettent d'avoir de l'énergie propre comme pour avoir le net zéro qu'ils demandent. Qu'est-ce qu'il faut faire?
On y reviendra tout de suite. Pour préciser, afin que les auditeurs puissent mieux comprendre, vous avez pris l'exemple sur la COVID-19, sur la guerre en Ukraine, à préciser que la COVID-19 n'est toujours pas totalement éradiquée, mais la tendance est en baisse. Au niveau de l'Ukraine également, la guerre continue toujours, mais l'exemple que donnait tout de suite Mme Segda consistait à dire que, selon vous, il y a beaucoup plus de mobilisation et de financement autour de ces deux questions-là, plutôt que sur le changement climatique, même si c'est un phénomène mondial. Alors aujourd'hui, tout de suite, Mme Segda le disait, il y a eu tellement d'annonces depuis 2008 qu'elle participe aux différentes COP, mais au niveau de l'action, il n'y a concrètement rien. Mais pourquoi, malgré toutes ces annonces, on a vu qu'avec cette COP déjà, premier jour, il y a eu le fonds pour les pertes et dommages qui a été adopté, et pas mal de pays africains ont salué encore une fois ce fonds sans s'interroger sur les mécanismes d'adaptation, les mécanismes de mise en œuvre et également d'accès au financement de ce fonds. Pourquoi ?
Alors, c'est une question importante. Pourquoi je ne prête ni de bonnes ni de mauvaises intentions. Ce que je vois, c'est que le débat est mal posé. Je pense que les fonds disponibles sont disponibles. Ce sur quoi ils se sont engagés, c'est disponible. Et pour moi, il manque deux choses, en fait, deux piliers. Le premier pilier, c'est ce que je disais tout à l'heure, focaliser et pousser l'ensemble des énergies des conversations autour de la génération d'idées et des solutions, mais qui ont comme fondement une vision différente de l'industrialisation. Les solutions qu'on mettra en place seront des solutions qui remettront en cause les systèmes de production qui existent aujourd'hui en Occident, parce que notre perspective est différente. Et c'est peut-être pour ça ou peut-être pas pour ça que le débat n'est pas posé, mais c'est à nous, pays africains, d'en prendre conscience et de poser le débat dans ce sens-là, d'oser remettre en cause les systèmes de production. Moi, je suis effaré par tous les side meetings qui ne consistent qu'à reproduire les systèmes de production existants. Non, la solution passe par des systèmes de production différents. Et c'est cette conversation-là qu'on doit inciter. Premier point. Deuxième point, les ressources qui sont disponibles, nous, à notre petit niveau, on n'a pas besoin de tant de ressources que ça. Les ressources qui sont annoncées suffisent largement. Par contre, la réalité, c'est quoi ? C'est qu'elles ne descendent pas là où elles devraient. Et c'est ce mécanisme-là qu'il faut adresser. Vous avez les ressources qui descendent soit par les institutions et qui vont dans les États et dans les institutions un peu lourdes à entraîner et qui ne sont pas faites pour faire de l'action. Et vous avez du financement secteur privé qui va vers le secteur privé, mais qui est très avare à investir en Afrique. Ils ont une vision tellement exacerbée du risque en Afrique et complètement décalée par rapport à la réalité. Donc c'est un chemin de croix que d'arriver à amener l'investissement privé vers le secteur privé. Or, on arrivera à agir rapidement qu'en étant capable d'associer et le secteur privé et sa responsabilité sociale. Et pour moi, le débat, il est là. Dans ces ressources disponibles, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour faire en sorte qu'on ait vraiment des financements qui soient capables de descendre de ces grosses institutions vers du secteur privé à vocation sociale ou amener les investisseurs privés à investir en Afrique en leur montrant la réalité des risques qui sont bien inférieurs. Vous savez qu'en moyenne, les taux de remboursement des emprunts en Afrique est significativement inférieur à ceux de l'Europe. Et pourtant, on a des taux d'intérêt absolument incroyables. Hein. Donc, il y a vraiment ce déconnect. Donc, pour moi, en résumé, le premier débat, c'est à nous de forcer cette conversation, remettre en cause des systèmes de production établis et non pas courir après la reproduction de ces systèmes. Hein. Et deuxième débat, les mécanismes de transmission de ces ressources vers l'action pertinente. Et là aussi, il faut oser le remettre en cause et oser le poser sur la table.
Est-ce que le débat est trop technique ? C'est pour cela qu'aujourd'hui, le citoyen lambda, l'agriculteur en Centrafrique, l'éleveur au Burkina Faso ou encore le pêcheur au Mali, a du mal à comprendre et s'inscrire dans la dynamique de participation à la lutte contre les effets du changement climatique comme le veulent ou l'indiquent certains experts et dirigeants politiques.
Alors, je vais vous décevoir, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce débat, c'est à nous, présents ici. Nous avons la responsabilité d'en faire un débat utile. Mais le paysan sur le terrain, il n'est pas fou, il n'est pas stupide, il est souvent bien plus intelligent qu'on le pense. Et surtout, il a des pratiques dont on ferait bien de s'inspirer. Et ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut ce en quoi il peut avoir un vrai impact, mais ce qui peut aussi servir son intérêt économique immédiat. Et c'est à nous de générer les solutions qui associent les deux, c'est-à-dire qui rentrent dans l'intérêt réel de l'agriculteur là où il est, tout en résolvant les problèmes qu'on a en face de nous. Hein, donc bon, je reviendrai à notre initiative où on a remis l'agriculteur dans son rôle premier. Depuis des siècles, des millénaires, l'agriculteur est celui qui reconstruit l'environnement et qui l'entretient.
On y reviendra dans la troisième partie pour parler surtout des solutions. Mais déjà, Madame Segda, tout de suite, Monsieur Tété disait que au niveau occidental, il y a du mal à comprendre les réalités africaines pour pouvoir mieux les prendre en compte dans les négociations et dans les solutions d'adaptation et d'atténuation. Mais est-ce qu'au niveau national également, dans l'élaboration, par exemple, des contributions déterminées au niveau national, l'agriculteur, l'éleveur, le citoyen lambda également, sa préoccupation est prise en compte? Est-ce qu'il est consulté pour pouvoir élaborer ces différentes stratégies?
Merci, Monsieur Touré. J'ai par chance participé à l'élaboration de la contribution nationale du Burkina de par sa partie et genre. Parce que voilà. Et donc, c'est vrai, pour cette. En fait, nous sommes à la deuxième phase de la CDN, voilà, le CDN révisé.
Et on demande même que ça soit revu en hausse pour la troisième phase, nous parlons.
Tout à fait, tout à fait. Parce qu'effectivement, la première n'avait pas du tout pu faire des consultations à un niveau en tout cas assez bas. Même la société civile nationale n'avait pas vraiment été consultée. Ça avait été fait rapidement. Mais la deuxième version est plus améliorée, a été prise en compte. Et j'ai personnellement participé sur le terrain à prendre en compte les préoccupations de genre. Et donc, dans 8 à 9 secteurs concernés par la CDN. Donc, on peut dire plus ou moins que cette CDN, a consulté, représente un peu les besoins, les préoccupations de la communauté au niveau même de la base. Maintenant, vous savez que la CDN a deux versions, hein, conditionnelle et non conditionnelle. Et ça appelle encore, effectivement, surtout la partie conditionnelle, et des ressources pour la mise en œuvre. Donc, le problème reste entier. Mais comme disait M. Tété, nous avons dans nos pays des expériences, des personnes, des acteurs qui sont nos producteurs, même dans l'agriculture familiale et tout. Ils ont, y compris même la recherche, on a trouvé en tout cas des moyens, des pratiques, des techniques d'adaptation au changement climatique qu'il faudrait vraiment sortir et mettre à l'échelle. Et donc, nous avons des choses à faire. Donc,
ça, ce n'est pas fait par les États africains à ce stade?
Il y en a, mais en fait, les gens, on est plus souvent amenés, ou du moins, on aime tout souvent dupliquer des choses qui viennent d'ailleurs. Voilà.
Est-ce que les CDN aussi sont dupliqués à travers des expériences d'ailleurs?
Non, les CDN, il n'y a pas. On va dire qu'il y a des pratiques à l'intérieur, mais les projets qui sont prévus, en tout cas à l'intérieur, je représente, je pense, les besoins de nos communautés. Voilà. Mais en dehors des CDN, effectivement, depuis tout ce temps, il y a des pratiques qui ont été implémentées. Et en général, vous savez comment les projets se font. Il y a plusieurs canaux de financement et tout. Et c'est en général des projets qui viennent des multilatérales, des choses, et qui, franchement, n'ont pas été conçus à travers des consultations sérieuses avec la base. Les projets viennent d'ailleurs et il faut les mettre en œuvre. Et souvent, effectivement, ça ne répond pas vraiment aux besoins de nos communautés. Mais comme on est toujours en train de chercher des projets, on les prend, on les met en œuvre, même si ça va aller nulle part. Donc, il faut vraiment se recentrer sur nos réels besoins et nos réelles capacités dans les contextes qui sont les nôtres. Voilà. Sinon, les acteurs ont déjà des savoirs qu'ils ne cherchent à être valorisés. Voilà.
Ce débat est enregistré à partir de Dubaï à la COP 28 et nous parlons de changement climatique. Alors tout de suite, vous disiez, M. Tété, qu'aujourd'hui, l'Occident a du mal à comprendre les réalités au niveau local. Mais Mme Segbe disait tout de suite également qu'en même temps, les projets viennent en Afrique. On sait que ce ne sont pas des projets qui répondent aux besoins du terrain, mais on les prend, même si on sait que les objectifs attendus ne seront pas atteints. Mais est-ce que cela aussi ne pose pas problème ?
Oui, bien sûr. Ce mécanisme de gestion de la ressource autour de l'organisation par projet est, je dirais, le meilleur outil pour ne pas utiliser la ressource. C'est-à-dire, on doit adapter le cahier des charges du projet, l'objectif du projet, on doit l'élaborer à partir du client final. Moi, j'ai passé ma vie, ma carrière dans l'industrie automobile. On n'imagine pas un seul instant faire un cahier des charges à partir du fournisseur. Le client exprime son besoin, on le comprend et on élabore un projet, un cahier des charges, puis un projet pour répondre aux besoins. Ici, le client, c'est le fermier final. C'est-à-dire, c'est un non-sens absolu que d'élaborer un cahier des charges sans le client final. Donc c'est vraiment, revenons aux basiques dans cette complexité qui, pour moi, est probablement le reflet du fait que, bon, on peut l'utiliser pour ne pas agir, mais probablement le fait qu'on a perdu la vision. On a perdu le sens de la simplicité et finalement ce qu'on veut faire réellement. Hein, donc revenons à des choses simples. La construction de ces projets, c'est un des mécanismes importants pour que la ressource soit effective. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a effectivement les structures de financement elles-mêmes, puis qui sont déclinées en organisation de projets pour descendre sur place. Et pour moi, ce mécanisme de transmission de la ressource, il ne fonctionne pas aujourd'hui. Et c'est à nous de proposer une alternative. Et quand je dis c'est à nous Africains. Je n'attends pas des grandes institutions ou des États européens de faire ce travail à notre place. C'est à nous de nous organiser. Et je pense que quand on vient avec des propositions pertinentes, il n'y a pas de raison qu'on ne nous écoute pas. C'est à nous de redessiner ces mécanismes de prélèvement de la ressource, d'aiguillage, de fléchage de la ressource et ces mécanismes de transmission de la ressource vers le terrain qui sont les projets.
Un des grands enjeux de cette COP, c'est la sortie des énergies fossiles. Certains soulignent un paradoxe, d'autres parlent d'hypocrisie en tenant cette COP à Dubaï, qui fait partie des grands pollueurs, des grands utilisateurs de ces énergies fossiles. Et tout de suite, Madame Segbe disait également que c'est pratiquement difficile, voire impossible, que l'Afrique puisse se développer sans ces énergies fossiles à ce stade. Comment voyez-vous ce paradoxe, hypocrisie et cette réaction également de Mme Segbe?
Alors, je pense que Mme Segbe a parfaitement raison dans l'analyse et dans la description de la situation actuelle. Et je pense que ça mériterait de porter sa voix et de la faire comprendre et en tout cas entendre par tout le monde. Ça, c'est une réalité. La perspective dans laquelle nous, on se place, c'est de dire ce contexte est un contexte donné, qu'est-ce qu'on fait? Et je vous donne un exemple très, très concret. Très, très concret. Quand je parlais de la transposition des problématiques occidentales vers chez nous. Très concret, le véhicule, les énergies fossiles renouvelables, il y a une alternative, c'est les biocarburants. Ah oui, mais tout le monde saute en disant oui, mais biocarburants, on ne va pas utiliser des espaces agricoles pour faire du biocarburant. C'est-à-dire, on ne va pas enlever le pain de la bouche des gens qui ont faim pour pouvoir faire du carburant. Mais ça, c'est avec une perspective ou une hypothèse implicite qui est de dire eh ben, quand je fais de l'agriculture, je pollue et mes espaces agricoles sont limités. Mais si j'ai une solution qui me permet d'avoir des espaces agricoles non limités, c'est-à-dire je viens, quand je fais de l'agriculture, je reforeste, quand je fais de l'agriculture, je reconstitue les sols. À ce moment-là, les espaces sont absolument illimités et pour le coup, les biocarburants sont une solution parfaitement adaptée et vous savez quoi, ils coûteront beaucoup moins cher que le pétrole. Voilà, c'est ça qui illustre le changement de perspective. Ce débat-là, pour moi, il est trop complexe, il est mal parti, il est mal posé, avec beaucoup de bonnes, mauvaises intentions, de l'incompréhension, etc. Je ne juge personne là-dedans, moi je prends ça comme un point de départ, un contexte, et sur base de ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on construit une solution? Et c'est un des exemples très concrets. On change complètement de paradigme.
Aujourd'hui, une des initiatives prises également, ça concerne la déclaration sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour les pays africains?
Ben, tant que ça ne reste pas une déclaration. Parce que c'est vrai qu'on a bataillé pendant des années. Je pense que c'est juste il y a 2-3 ans que l'agriculture même est rentrée dans l'agenda de l'ECOP. Et sinon, pendant longtemps, ce n'était pas rentré.
Comment peut-on comprendre cela, puisqu'on estime aujourd'hui que l'agriculture est l'essence même de la survie, du développement, notamment des pays africains, que vous représentez, pays de l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Donc comment c'est au cours de ces 2-3 dernières années qu'on prend suffisamment en compte l'agriculture dans les négociations?
Mais justement, c'est ça, c'est une question de leadership et de préoccupation. Vous savez, pendant longtemps, et comme on parle des textes, pendant longtemps, on voyait passer production alimentaire. C'était un peu le terme qui était utilisé. Et les pays africains ont lutté vraiment pour qu'on parle d'agriculture. Donc, c'est pourquoi ça a mis du temps avant de devenir un certain succès pour les débats. Donc, on est arrivé là et les questions d'agroécologie sont passées. On a, enfin, je vais dire, beaucoup d'organisations, la FAO, pas mal de choses sont rentrées parler de l'agroécologie et tout ça comme solution. Mais effectivement, la dynamique est là, elle est bien posée, mais il faut agir, il faut mettre les moyens qu'il faut pour y arriver. Et chez nous, par exemple, au Burkina, on a une stratégie nationale dans l'agroécologie. Mais stratégie, ça reste politique et tout, il faut les moyens. Il faut les moyens, que ce soit mobilisé à l'interne ou à l'externe, mais il faut les moyens pour le faire. Nous, par exemple, nous sommes dans la même dynamique. Au Burkina, le WEP a un centre de formation agroécologique pour les femmes. Donc, c'est juste pour accompagner cette dynamique. Et on pense déjà que surtout même pour les femmes, c'est plus important. Même si ça demande encore des moyens, les femmes sont celles qui sont plus vraiment à mesure de pouvoir faire de l'agroécologie parce que les ressources qui sont nécessaires pour le faire, elles peuvent y accéder facilement, que ce soit la biomasse, que ce soit la fumure organique, que ce soit un certain nombre de choses, c'est possible. Mais il reste pas mal de choses à financer, le renforcement des capacités et d'autres équipements pour, par exemple, gérer l'eau, etc. Donc tout ça, c'est important. C'est des solutions, mais qui demandent quand même un certain nombre d'accompagnements et dont ont besoin les acteurs.
C'est après 28 COP, conférences sur le climat, qu'une déclaration sur l'agriculture et la sécurité alimentaire est adoptée. Comment comprendre cela et qu'est-ce que ça va changer, M. Tété?
Alors c'est fondamental. Je pense qu'on a tourné autour du pot pendant 28 ans et puis on est arrivé sur le vrai sujet. Il faut, encore une fois, retour aux basiques. Le point de départ, c'est comment on s'alimente et ensuite on bâtit l'économie dessus. C'est depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et cette question, on ne peut pas traiter la question écologique sans avoir commencé par ce fondement-là. Donc ça illustre un peu le mécanisme de discussion. On tourne autour des sujets, on n'a pas vraiment rentré sur le sujet. Et alors, encore une fois, je présume pas des intentions bonnes ou mauvaises. Je constate simplement que tout cet ensemble de discussions, d'articulations très compliquées, etc., l'exemple flagrant, c'est ça, c'est que le sujet agricole a été évité pendant 28 ans. Ça illustre cette mauvaise adaptation de l'outil.
Est-ce que cette déclaration va changer quelque chose selon vous?
Ah, mais c'est fondamental. En tout cas, elle ouvre une porte. Après, c'est à nous de savoir comment on remplit la pièce de la porte qui vient d'être ouverte. Et ça, c'est notre responsabilité. Encore une fois, moi, je prêche vraiment pour un forum de discussion, c'est-à-dire organiser une conversation qui pousse les acteurs à proposer des solutions avec des systèmes de production différents. J'insiste dessus parce que, à la fin des fins, tout problème complexe commence par concrètement. Moi, je pense que le tout est la somme des éléments. Donc, il faut qu'on vienne sur le sol, qu'on regarde les solutions et qu'on regarde. On ne pourra pas faire l'économie de proposer des systèmes de production alternatifs. On peut tourner autour du pot pendant encore 50 COP. Le climat, pour moi, la contrainte climatique. Alors, je comprends les souffrances qu'elle engendre et je comprends les dommages qu'elle crée. Maintenant, moi, je la prends comme une opportunité formidable. Cette contrainte nous contraint à innover. On n'a plus le choix. On ne peut plus continuer à choisir entre détruire notre forêt et nourrir notre population. Et ça ne changera pas. Cette question restera comme ça. Par contre, cette question a une vertu, c'est qu'elle nous obligera à innover pour trouver ces solutions-là. Et notre responsabilité, c'est d'organiser des forums de discussion pour qu'on puisse générer ces innovations, les capter et les déployer. Et les hiérarchiser, en faire l'assessment, les sélectionner et les déployer. Mais les jeunes chez nous, ils sont d'une créativité incroyable, d'une énergie incroyable. On a des marchés dont tous les industriels pourraient rêver. On a tous les éléments favorables, contrairement à ce qu'on pourrait penser, pour développer une nouvelle industrie, mais qui part d'une perspective différente.
Avez-vous l'impression que l'Afrique pèse réellement dans ces différentes négociations sans soutien de pays industrialisés, quand on prend l'exemple du G77 avec la Chine notamment?
Alors je pense que l'Afrique pèse. La voix de l'Afrique est écoutée, mais je ne suis pas sûr que ces voix-là soient suffisamment challengeantes, hein, pour reprendre un anglicisme. Je ne pense pas que ces voix-là remettent suffisamment en cause les systèmes de production établis. On a des arènes, alors les institutions, les différentes institutions ont des arènes, mais je ne suis pas sûr que ce qu'on exprime pour l'Afrique et par la voix des organisations qui nous représentent ait fait ce travail préalable de capter les solutions différentes et de poser le développement économique sur une autre perspective. Donc les voix sont là, le haut-parleur est là, c'est à nous de préparer ce qu'on a à dire pour que ce soit dans notre intérêt, hein. Je vais citer la directrice du PNUD qui est venue nous visiter et qui nous finance et vraiment qui a ouvert ces perspectives-là, hein. L'Afrique qu'on veut, c'est l'Afrique dont on a besoin. C'est pas la copie d'un autre modèle. L'Afrique qu'on veut, c'est l'Afrique dont on a besoin.
Débat à la COP28 pour parler de changement climatique et des mesures d'adaptation. Aujourd'hui, parlons de solutions maintenant. Madame Segbe, aujourd'hui, pour l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, le Burkina est présent, le Mali est présent, même si le Niger n'est pas là. Quelles sont les différentes solutions qui doivent être mises en avant pour le bonheur des citoyens ouest-africains?
Moi, je pense que déjà, dans notre Sahel, et plus particulièrement au Burkina, et nous avons quelques solutions endogènes qui existent déjà. Vous savez que ça fait quand même 30 ans, hein, que nous nous adaptons. Mais c'est comme si c'est nouveau, les questions d'adaptation. Et nous avons, depuis les années 70-71, commencé à affronter le désert et la sécheresse. Et donc, par des techniques qui ont été vraiment, qui ont fait leurs preuves. On a les questions de Zaï, les demi-lunes, et les cordons pierreux, et voilà. Et pas mal de techniques. Vous avez dû entendre parler du... Malheureusement, il est décédé, ce doyen Yacouba Sawadogo, le prix Nobel, et donc, qui a reforesté, qui a refait sa forêt avec ses connaissances endogènes, donc avec des mises en défense. On a pas mal de techniques, mais je vous dis que c'est très coûteux pour le pauvre paysan, pour la communauté. Voilà, parce que même aujourd'hui, il faut acheter, il faut aller loin chercher les pierres, il faut les transporter, et il faut nourrir, je vous dis, nourrir des sols pendant une année avant que ce sol ne soit utilisable. Voyez comment c'est difficile. D'autres pays ont plus de chance, et c'est vert, et c'est facile. Mais dans le Sahel, c'est difficile. Donc, ça demande des moyens. Sinon, les connaissances sont là. On n'attend que les moyens. Alors, donc, quand on mobilise à un niveau interne, ou externe, mais ça me ramène également à cette question de justice climatique que je ne saurais discuter ici sans évoquer. Il faut vraiment que les pays développés se mettent soit face à leurs responsabilités. Responsabilité commune mais différenciée. Nous sommes tous responsables, mais à des niveaux différents. Et il faut que ça se fasse, même si aujourd'hui nous sommes dans un cadre APA pour apaiser tout le monde, parce que tout chacun jette la pierre à l'autre, mais il faut que ceux qui sont les pollueurs là, ils puissent vraiment payer pour que les autres. Sinon, comme on dit, nous sommes dans un village planétaire. Si quelqu'un n'arrive pas à manger dans le Sahel, on va arriver en Europe. Que ce soit par la mer ou que ce soit autrement, on va arriver. Donc, autant faire en sorte que les pays dans le Sahel ou dans les pays vulnérables là puissent s'adapter au changement climatique et pouvoir vivre dignement.
D'avant la migration, est-ce que même les conflits entre les communautés, agriculteurs, éleveurs notamment, ne vont pas s'envenimer?
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais c'est la rareté qui entraîne tout ça. Voilà. S'il y a l'érosion partout, si les arbres ne poussent pas, si l'herbe qui sert, les fourrages pour les animaux ne suffisent pas, les paysans ils vont rentrer en conflit parce que l'animal du peul va brouter les plantes du paysan. Donc, c'est la rareté qui entraîne tout ça. Donc, conflit communautaire exacerbé. Et aujourd'hui, plus que jamais, vous savez par exemple que le territoire du Burkina était à près de 40% occupé par des groupes armés non identifiés. Et tout ça fait que les champs ont été restreints. Donc, tout ce pourcentage où les paysans cultivaient, ils ne peuvent plus y cultiver. Donc ça entraîne de l'insuffisance alimentaire. Donc ça, c'est des problèmes qui viennent s'ajouter déjà au phénomène climatique.
Le changement climatique est aussi une opportunité et il faut des innovations, disiez-vous tout à l'heure. Quelles sont les différentes innovations qui existent aujourd'hui dans la région centrafricaine?
Alors, on a expérimenté et on est dans la phase de déploiement à grande échelle. Une solution intégrée. Et d'abord, je tiens vraiment à remercier et l'État centrafricain et les organismes, le PNUD, la BDAC, qui ont su comment tordre leurs propres règles internes pour pouvoir financer du secteur privé. Hein, parce que je pense que le point de départ, c'est vraiment la gouvernance, hein, pour clore le sujet précédent, la gouvernance. Et en particulier, Le bras agissant efficace sur le terrain, ce sont les ONG et les entreprises. L'entreprise privée à laquelle il faut qu'on attribue une responsabilité ou qu'on fasse faire une réelle responsabilité sociale. Donc notre innovation a commencé par inventer ce nouveau cadre. Donc ça se fait par, dans le cadre d'une entreprise privée, mais pour laquelle une partie significative des profits est extrait et investi dans le social par statut. Donc, et elle a elle-même un plan d'investissement social qui est présenté et qui fait partie de ses performances. Donc vraiment, le cadre de dans lequel on agit est aussi important que la solution. Maintenant, la solution, c'est un système de production complet, comme je disais tout à l'heure. Le point de départ, c'est simplement d'observer le paysan. Le paysan ne fait pas de labour, le paysan fait de la rotation culturelle. Le paysan ne laisse jamais une terre nue. Vous ne verrez jamais chez un paysan une terre sans herbe ou sans des choses comme ça. Alors que quand vous allez dans des champs de maïs, dans l'Indiana ou dans la Beauce, vous avez 6 mois de l'année, une terre absolument vierge avec juste de la terre. Donc toutes ces pratiques-là, on les a reprises, on les a industrialisées. Donc c'est une association de techniques que l'on a pris et on a fait un système de production. Et là où vraiment je tire mon chapeau à l'État centrafricain, c'est d'avoir permis justement de proposer un système complet. Donc on a pu mettre en place. Donc c'est les différentes techniques, aussi bien sur l'aspect industriel, donc on fait ce qu'on appelle de l'agriculture régénérative, à laquelle on associe de l'agroforesterie et de la conservation de forêt. Donc c'est un module complet. Et dans notre ferme, on met l'usine de transformation des produits de sorte que les sortants de chez nous, les produits sont prêts à être commercialisés dans le bassin de consommation autour de lui. Hein, donc c'est vraiment des solutions locales, donc on appelle ça un module qui est dimensionné pour les gens autour. Donc en fait, on se met dans les endroits où la forêt a été déforestée. Elle a été appauvrie par la culture surbrûlée, par les mauvaises pratiques, par la coupe du bois de chauffe pour les villes, pour les grandes villes, et l'ouverture des nouveaux espaces agricoles. Donc on se met sur ces zones qui ont déjà été dégradées et on régénère le sol, on fait de l'agroforesterie. Donc en fait, on valorise l'arbre debout, donc que le paysan ait l'habitude, retrouve l'habitude en fait qu'il a toujours eu de tirer son revenu de l'arbre dont qu'il exploite et non pas tirer son revenu de l'arbre qu'il doit abattre. Et donc forte composante agroforesterie et puis de la conservation de forêt autour de nous. Donc ce système complet est un système qui fonctionne. Voilà, vous êtes les bienvenus à venir visiter ce beau pays qui est la Centrafrique d'abord, qui est très surprenant, d'un état de préservation exceptionnel. On a vraiment une chance, c'est l'une des plus grandes biodiversités terrestres existantes aujourd'hui. Hein, donc c'est vraiment un bijou, un joyau collectif. Alors on a la chance de l'avoir chez nous, mais il appartient au monde, il appartient à tout le monde et on doit le préserver. Donc cet outil a été mis en place et on utilise la technologie pour sublimer les pratiques traditionnelles. Voilà notre approche.
Et lundi, la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique qui engage les pays du Sahel a été présentée ici à la COP28 par le Mali. Aujourd'hui, journée dédiée au Burkina Faso au niveau du pavillon Burkina. Il y a le ministre du Burkina qui a souligné qu'il y a un projet qui consiste à faire du reboisement au niveau d'1 million d'hectares de surface au Burkina Faso qui doit servir plus de 60 voire 90 communes à terme sur une durée de 10 ans. Est-ce que vous pensez, que pensez-vous déjà de ces différentes solutions annoncées puisque vous parliez également du lien entre le changement climatique et l'insécurité?
C'est tout à fait une solution, même c'est de la responsabilité du gouvernement de, dans le cadre justement de ce conflit, parce que comme je disais, le conflit vient exacerber l'existant déjà. Et quand on prend les écosystèmes sont mis à mal par la crise sécuritaire. Vous voyez, quand je regarde chaque soir, quand on fait le bilan des attaques, et, ou du moins, heureusement, aujourd'hui, c'est les FDS qui attaquent les trucs.
Les forces de défense et de sécurité
qui attaquent les groupes maintenant. Et, mais c'est douloureux de voir comment les arbres sont bombardés. Parce que les groupes les armés se retrouvent réunis sous les arbres. Et donc, on les bombarde, mais en même temps qu'on les bombarde, c'est autant d'arbres qui sont tués, abattus. Donc, nous perdons des puits de carbone. Donc, il faut justement penser, même nous, au niveau de, en tant qu'organisation de la société civile, nous sommes en train de chercher justement des partenaires pour vraiment lancer, accompagner les gouvernants dans un véritable plan effectif de reboisement post-conflit. Ou déjà, dès que c'est, là où c'est possible, parce qu'il y a des retours de population déjà dans leur zone, et donc il faut vraiment engager ce plan de reboisement. C'est déjà bien que ce projet existe, mais nous aussi, nous avons notre part à jouer en tant que société civile de contribuer justement à faire ce reboisement.
Nous sommes à Dubaï pour la COP28. Le bruit que vous entendez autour fait partie de l'ambiance de cette COP28. Et pour ce débat, on va terminer avec cette dernière question pour nos deux invités. Que faut-il mettre en avant à travers le contenu que vous demandiez pour sortir du cadre afin que les populations locales puissent bénéficier des décisions qui vont être prises lors des différentes COP?
Alors encore une fois, je pense qu'en résumé, les ressources, Elles sont importantes. Le premier niveau, c'est aiguiller ces ressources vers des actions réellement utiles, et en particulier la possibilité d'avoir les ressources venant des organisations institutionnelles descendre vers le secteur privé qui est la main agissante la plus efficace. Deuxième niveau, c'est la structure des projets qui descendent. Aujourd'hui, ces cahiers des charges des projets sont écrits dans le mauvais sens. On doit partir du client final pour pouvoir le faire. Et dernier élément, c'est la gouvernance et ces entreprises. On doit les orienter vers une réelle responsabilité sociale et pas uniquement de la communication, mais une réelle responsabilité sociale. Avec cet ensemble-là, on a l'outil pour pouvoir agir sur le terrain. Et à court terme, maintenant, je pense que nous, notre responsabilité, c'est vraiment d'écouter ce fameux paysan. Il a beaucoup de choses à nous dire.
On parle beaucoup de financement. Est-ce que sans le financement des pays industrialisés, aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas s'adapter aux conséquences du dérèglement climatique?
L'Afrique peut essayer l'adaptation, mais je vous dis, elle est coûteuse. Vous voyez, j'exerce une petite ferme et même moi avec les ressources que j'ai du mal. Il y a beaucoup de choses qu'il faut par exemple pour nourrir nos sols aujourd'hui. Je prends le cas particulier du Sahel où les terres sont infertiles. Donc il faut d'abord les fertiliser, avoir les bonnes semences adaptées au climat actuel, les semences à cycle court. Il faut les acheter et il y a beaucoup de choses qu'il faut apporter à la terre et à ces ressources-là, l'eau par exemple. Pour avoir l'eau, il y a plein de zones où la nappe phréatique est très profonde. Donc, il faut pouvoir faire des forages, et mettre des pompes solaires, etc. C'est très coûteux pour un paysan. Donc, il faudrait vraiment les soutenir. Et c'est vraiment la première responsabilité, c'est l'État. Mais l'État, justement, dans cet univers donc, de négociations et de changement climatique, et comme c'est demandé par la Convention et même accepté par les pays développés, ils sont conscients que les pays en voie de développement ont besoin de soutien financier pour s'adapter, pour faire face à ce qui se passe. Mais justement, ce n'est pas fait et il le faut. C'est important.
Merci à nos deux invités. Et pour résumer les différentes discussions autour de ce débat, c'est qu'aujourd'hui, il y a des avancées, mais très timides en lien avec les différentes COP et les discussions sont posées sur le cadre. C'est trop technique et qu'il faudrait redescendre sur le contenu et prendre en compte les préoccupations des populations locales, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, pas en termes de bénéficiaires de projets, mais également en termes de personnes qui proposent des solutions concrète d'adaptation parce qu'elles vivent ces situations. L'autre point également en ce qui concerne la sortie des énergies fossiles, c'est que ça doit se faire par étapes puisque l'Afrique n'est pas aujourd'hui prête à sortir directement de ces énergies fossiles, mais elle a déjà des mesures d'adaptation au niveau local. Et en ce qui concerne le financement également, il est essentiel pour les pays africains. Et à travers tout ce qui vient dit, ça montre également que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, les réalités ou certaines des réalités sont communes. Et un partage d'expériences entre ces différentes régions pourrait être hyper intéressante au bénéfice des communautés. Merci à nos deux invités, Madame Zainabou Segda, qui est la présidente de Women Environmental Programme au Burkina Faso, et Monsieur Jean-Luc Tété, président de la Société des Industries Agricoles Durables en Centrafrique. Je suis Mohamedou Touré, j'ai eu le plaisir de vous présenter ce débat. Merci et à très bientôt.